le magazine citoyen avec la province Sud, une province citoyenne.
La province Sud, agir pour l'avenir.
Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de ce nouveau numéro de notre magazine citoyen. Avec un sujet d'une importance particulière aujourd'hui, puisque nous allons parler beaucoup de solidarité dans ce magazine. Depuis le début de la crise insurrectionnelle que connaît la Nouvelle-Calédonie, depuis le 13 mai, les associations caritatives sont évidemment très sollicitées, bien que certaines d'entre elles, on va en parler aussi, aient aussi subi des exactions. Elles entendent évidemment poursuivre leur action auprès des populations les plus fragiles, dans quelles conditions, avec quels moyens, quelles perspectives. C'est le thème de ce magazine et nous sommes aujourd'hui en compagnie d'Elisabeth Gau, présidente de la Société Saint-Vincent-de-Paul, de Jean-Yves Lemenant, qui préside le Secours catholique, de Patrick Chautard, qui est président de la délégation territoriale de la Croix-Rouge, de Betty Levanquet, qui est présidente de la Banque alimentaire, et de Carlène Terria, de l'association Solidarité RS, RS pour Rivière-Salée. Bonjour à tous les cinq.
Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous, Elisabeth Gau. Un premier constat d'abord, c'est que les associations ont parfois, elles aussi, subi des exactions, et ça a été votre cas, Saint-Vincent-de-Paul.
Oui, alors effectivement, on a eu donc notre centre administratif et le centre des ateliers en haut de la vallée du Tir qui a été complètement pillé, vandalisé et brûlé en grande partie. Donc voilà, donc on a dû dégager de ce site, se renouveler, trouver autre chose. Et puis on a une de nos épiceries solidaires, on a trois épiceries solidaires autour de Nouméa. On a une de nos épiceries solidaires à Païta qui a été également pillée, vandalisée et le lendemain incendiée.
C'est les destructions qui ont eu lieu dans les, on va dire, dans les deux, trois premières semaines à partir du 13 mai. Est-ce qu'elles ont impacté l'ensemble de vos associations ? Comment vous avez vécu cette période, Patrick Chautard ?
Effectivement, après le pillage et l'incendie de nos véhicules et de certains de nos bâtiments, on est resté opérationnel parce qu'on n'avait pas le choix. On était obligé de mettre en place un CHU, Centre d'hébergement d'urgence à la demande du COS, donc le Centre opérationnel de zonage. On est resté dans l'opération parce que c'était une obligation, c'était nécessaire. Et on n'avait pas le droit de démissionner. Donc actif. Et surtout, travail d'équipe.
Ça veut dire aussi prendre des risques aussi parfois.
À plusieurs reprises, on a été amené à prendre des risques. Mais ils étaient évalués avant de monter sur les barrages. Parce qu'il fallait franchir certains barrages pour récupérer notre matériel. Mais pour les deux cas où on s'est présenté sur les barrages, je reconnais que le port de l'emblème de la Croix-Rouge nous a permis de passer le barrage sans aucune difficulté.
Du côté du score catholique, Jean-Yves Lemenant.
Bah écoutez, on est dans un endroit à la vallée du Tir, comme Elisabeth, qui est très très impactée hein, par cette situation. On a été visité, on n'a pas subi de gros dommages, sauf qu'on ne peut pas exercer notre mission actuellement à la vallée du Tir. C'est trop compliqué. Quand on y va, les chaussées sont souvent jonchées de verres cassés, on se sent surveillé, enfin, etc. Donc on a dû déporter notre action sur un local qu'on a près de la cathédrale. Donc on est à l'étroit, mais en sécurité.
Carlène Terria, vous êtes donc la responsable de Solidarité RS. C'était un collectif au départ. Racontez-nous comment ça s'est monté votre association en fait.
Alors, à la base, ce collectif, on est parti d'un collectif. Nous sommes tous habitants de Rivière-Salée. Donc, on a subi aussi la situation en mai 2024. Donc, on était enclavés dans notre propre quartier pendant 3 semaines. Et donc, du coup, c'est parti de publications sur les réseaux sociaux. Et donc, on s'est réunis comme ça, plusieurs habitants, on était 4, c'est vraiment les membres fondateurs de l'association, parce que nous sommes actuellement une association très jeune, mais on ne lâche pas et on a subi en même temps que les habitants de Rivière-Salée la même situation. Donc très compliqué, on jauchait à travers les barrages, mais on ne s'est pas arrêté, on était motivés, on est encore motivés pour continuer nos missions actuelles.
Alors, comment vous vous organisiez au quotidien ? Quelles étaient vos actions, en fait ?
Nos actions premières, on va dire, c'était tout simplement aller vers les habitants, c'est-à-dire venir chez eux, faire du porte-à-porte, parce qu'on était vraiment enclavés hein, dans notre propre quartier et on n'avait pas accès à la voiture, donc on faisait tout ce chemin à pied. Et la particularité de notre association, c'est que nous sommes des habitants de différents secteurs. Sur Rivière-Salée, il y a plusieurs secteurs. Donc, c'était vraiment favorable pour que chacun puisse, petit à petit, auprès de son habitation, puisse prendre la température de chaque habitant proche d'eux. Et donc, comme ça, on a pu faire un recensement, c'est-à-dire demander tout simplement aux gens qu'on allait visiter s'ils avaient des besoins particuliers, combien ils étaient au sein de leur propre foyer, et venir en aide petit à petit. Voilà. Les débuts, nos premières missions qu'on a faites, c'est vraiment du recensement pur et dur sur le terrain.
Ça doit être le cas d'ailleurs pour l'ensemble des associations, parce que par définition, on connaît bien vos actions à tous. Vous êtes très très proche des populations justement les plus fragiles. Est-ce que vous avez pu justement avoir des retours précis sur la situation réelle des gens ? C'est-à-dire qu'on imagine que vous avez été en contact avec des gens qui étaient dans des situations extrêmement difficiles.
Le premier Patrick impact Chautard. Que l'on a pu mesurer, c'est l'impact psychologique.
Oui.
Des personnes qui ont subi. Mais ça reste le problème à résoudre, en plus de ce qu'on va discuter après, notamment le problème alimentaire. L'impact psychologique, c'est à mon sens ce qui est le problème le plus crucial qu'ont pu rencontrer les gens qui étaient comme Rivière-Salée, bloqués dans leur quartier. Après, c'est aussi le maintien du lien. Le lendemain du 13 mai, un lien s'est non pas rompu, mais maintenant il est ténu. Et ce lien, il est impératif que l'on contribue à le maintenir, à se développer. Et ça, c'est le rôle de chacun d'entre nous, le maintien du lien.
Je vois approuver, Betty Levanquet, ce que dit Patrick Chautard.
Il a tout à fait raison, Patrick. C'est le lien social que l'on doit absolument sauvegarder parce qu'il est effectivement en danger. Il a été meurtri, blessé. Ça, je pense que, au-delà de l'alimentaire, en tout cas en ce qui concerne la banque alimentaire, au-delà du besoin alimentaire, je pense moi toujours à sauvegarder le lien social. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que les démunis, on s'en occupait depuis 6 ans, mais ces démunis-là, ils sont encore plus démunis. Et puis, il faut aussi se rendre compte qu'il y a une nouvelle population de précaires et qui est, elle, aussi bien dans le besoin que ceux que nous servions depuis 6 ans. Et cette population-là, elle doit absolument être recensée afin d'être aidée. Et cette nouvelle population de précaires, elle n'a pas l'habitude de demander de l'aide. Donc, c'est aussi une difficulté pour ces gens-là. Mais en tout cas, nous sommes là pour tout le monde. Alors, bien sûr, on n'a pas des moyens illimités, mais je veux répondre aujourd'hui à tous ceux qui pensent et qui disent qu'on n'est là que pour s'occuper des Océaniens. Je ne vois pas en quoi... cette phrase-là, je la trouve vraiment bête, parce que ce n'est pas vrai. Nous sommes là pour tous ceux qui sont dans le besoin, et c'est important de le dire.
Voilà. J'imagine que c'est le cas c'est le cas de tous, Elisabeth Gau.
Oui, aujourd'hui, il y a vraiment une nouvelle population, comme dit Betty. Ça va être, c'est tous les chômeurs, hein, c'est toutes les personnes qui ont été impactées, qui ont perdu leurs biens, les personnes âgées qui peuvent plus se déplacer, il y a énormément de personnes qui viennent à nous, qui n'étaient pas habituées, et comme elle disait, effectivement, qui ne sont pas habituées à demander des aides. Là, on a beaucoup d'artisans, nous, qui viennent à nous aussi parce qu'ils ont tout perdu. Ils ne peuvent plus, faire leur activité. Il n'y a plus de clients. Il n'y a plus. Voilà. C'est vraiment, oui, on est vraiment dans une conjoncture catastrophique, hein, il faut le dire. Et donc, on a tout un panel de personnes nouvelles et auxquelles il faut qu'on fasse face.
Du côté de Saint-Vincent-de-Paul, Jean-Yves Le Menant, il y a
le secours catholique.
On rappelle que c'est pas uniquement Nouméa hein, qui
voilà,
est touché.
C'est ce que j'allais dire.
Voilà, je vous voyais arriver. Il
faut vraiment souligner le dynamisme et puis la force de caractère de certaines de nos équipes de brousse, comme Antio, Akanala, Poya, Koné, qui ont bravé les barrages, qui ne sont pas forcément venus jusqu'à Nouméa, mais qui ont pu être ravitaillés sur la RT1. pour ensuite redistribuer sur place. Il faut dire que ce sont majoritairement des femmes qui se... Je pense que dans les autres associations, c'est un peu ça aussi. Hein. Il y a ce côté-là. Et donc ça a été le côté un petit peu... Et la difficulté pour nous, justement, c'est de bénéficier d'un lieu où on puisse préparer des colis, des denrées, de pouvoir faire la moitié du chemin. Enfin bref, c'est assez complexe comme situation. Mais ces femmes, notamment de la côte Est, là, bravo, quoi, chapeau. Mmh.
Ouais, Carlène Teria, je vous voyais approuver là encore. Effectivement, il y a beaucoup de mamans hein, qui se sont mises en avant, qui ont pris les choses en main finalement.
C'est ça. Ben, je suis maman de deux enfants, donc la plupart des fondatrices de l'association, nous sommes des mamans. C'est vrai que on est très en avant en ce moment les femmes. Et je tire mon chapeau à toutes les femmes qui nous rejoignent dans toutes les associations actuelles et qui travaillent au quotidien pour vraiment aider son prochain.
Et est-ce qu'elles ont vraiment le choix?
Aussi.
Parce que quand on est maman et qu'on a des enfants à nourrir le matin, quand on se lève, on se demande vraiment comment on va faire. Donc, genre, c'est pour ça qu'on parle des femmes. En fait, les femmes, elles ont des enfants à nourrir. Mmh. C'est ça aussi qui fait qu'elles sont toutes sur le front comme ça.
Alors, pour affronter évidemment cette crise, on va reparler un petit peu de la façon dont vous voyez l'évolution des choses dans les semaines et dans les mois qui viennent. Mais avant, je voudrais qu'on revienne sur la question des moyens, parce qu'il y a un certain nombre d'associations autour de cette table qui ont des relais au niveau national. Est-ce que vous avez fait appel à ces relais? Et puis, au niveau des associations locales, alors évidemment, le nerf de la guerre, j'allais dire, ce sont les moyens, c'est l'argent, tout simplement. On sait qu'en ce moment, les finances de la Nouvelle-Calédonie ne sont pas au beau fixe, donc c'est compliqué d'obtenir des subventions, par exemple. Alors, comment vous organisez? Comment vous faites les uns les autres? Jean-Yves Le Melon.
Oui, déjà, on pioche dans nos réserves.
Oui.
Parce que la situation, alors, nous, on est rattachés à un siège national, à Paris, mais période de vacances, Jeux Olympiques, gouvernement qui gère les affaires courantes, c'est très, très difficile d'avoir de l'aide en ce moment. J'ai là un courrier que j'envoie au président du Secours catholique national. Vous voyez, il fait 4 pages. Hein, il est très précis, très documenté. On va appeler à l'aide. Alors, moyens, il y a les moyens financiers, les moyens en dons. En fait, Secours catholique, mais comme la plupart des associations, on ne vit que de dons. C'est une économie du don. Don en numéraire, en argent, don en denrées, don en linge qu'on va transformer, qu'on va revendre, enfin, etc. Donc, on ne vit que de donateurs. Dont des institutions, on ne va pas compter trop sur les institutions locales en ce moment, parce qu'ils sont dans le rouge. Hein.
Ce n'est pas le moment.
Ouais. Voilà. Donc, on appelle à l'aide. On remercie bien sûr nos donateurs. On leur dit de ne pas baisser la garde, si c'est possible, de continuer à nous aider. Et puis on garde des activités où c'est un peu de l'alchimie. On a une boutique solidaire là près de la cathédrale. Bon, les ventes alimentent aussi. On transforme le plomb en or là pour pouvoir justement alimenter les caisses. Et puis on travaille aussi, mais ça peut-être qu'Elisabeth pourra en parler un peu. On essaie de se rapprocher pour optimiser les choses. C'est-à-dire faire des économies globales.
C'est-à-dire rapprocher des associations de solidarité entre elles.
On le fait déjà depuis un moment, mais là, on mutualise les moyens, les zones de stockage, par exemple, c'est un vrai problème, parce qu'il faut... On peut stocker un peu de denrées, mais il ne faut pas se faire piller. Enfin bref, ce n'est pas simple.
Elisabeth Gau, dans votre cas, la question des moyens se pose, parce qu'en plus, vous avez perdu des infrastructures.
Alors on a perdu des infrastructures. Nous, on a nos épiceries solidaires. Je voulais dire que Vallée du Tir, j'ai été négociée quand même sur les barrages pour garder notre épicerie solidaire de Vallée du Tir. Mmh. Donc j'ai réussi parce que je pense que justement, les mamans de Vallée du Tir voulaient qu'on reste. Donc en fait, on a réouvert assez rapidement pour cette population et pour d'autres, tous ceux qui veulent venir. D'ailleurs, ce qui n'est pas très facile de venir à Vallée du Tir. J'avoue que j'avais un petit peu peur aussi pour mes équipes, mais elles tiennent ça de main de maître et ça se passe très bien. On a l'appui des, on a l'appui des mamans et des papas, certainement, du quartier pour rester ouvert. Il faut savoir que dans nos épiceries solidaires, nous, on vend à prix coûtant des achats que nous faisons et que nous pouvons acheter grâce aux dons qu'on nous donnait, qu'on vendait à tout petit prix également. Et solidaire, pourquoi ? Parce que ces dons, ils étaient vendus à des gens comme vous, comme moi. Voilà, c'est solidaire. Donc, ça nous permet de racheter et de pouvoir avoir des prix de grossistes et de vendre à ce prix-là. Voilà. Nous, on a la chance aussi, comme certaines associations, d'être reliés au niveau national en métropole. Donc, ils ont de suite répondu présent. Ils ont fait une grosse collecte en métropole. J'attends le résultat. Ouais. Donc, je l'espère en tous les cas. Et puis là, j'ai beaucoup alerté. On est tous conscients que c'est l'alimentaire qu'il va y avoir vraiment un gros problème alimentaire. Parler, les gens ne vont plus avoir de pièces pour payer. Les pillages ont commencé. Il faut qu'on fasse très attention. Ça a commencé dans une association. On a été obligés de les dépanner très vite pour aller chercher le riz qu'ils avaient reçu. Pour vite aller avec un véhicule banalisé, pour vite prendre le riz, le mettre en sécurité. Donc ça va commencer, c'est évident. On devrait, nous, recevoir des conteneurs de marchandises par notre maison mère. Donc. Et puis, il y a des associations qui se sont présentées à nous pour vraiment nous aider. Alors, je pense notamment à la... Comment c'est, Jean-Yves, déjà, l'association des saints du dernier jour, c'est ça ?
Ah oui,
qui nous aide donc, et qui va nous offrir également un conteneur alimentaire. Voilà. Donc, qui va pouvoir alimenter notre collectif, puisqu'on avait monté il y a plus de 2 ans un collectif avec certaines associations. Il y en a 2 de plus qui sont venus avec nous, là. Donc, pour toujours pareil, mutualiser les dons qu'on peut avoir et se les redistribuer.
Mmh. Voilà. Patrick Chotard, au niveau des moyens, comment va la délégation territoriale de la Croix-Rouge ? Est-ce que vous faites appel à la Croix-Rouge nationale ? Comment ça se passe ?
Exactement, vu la gravité de la situation, on a fait appel à la Croix-Rouge, au siège de Paris. On a un bailleur de fonds, Edenred, qui en métropole a créé les chèques restaurants. Donc on est en train de monter un budget, l'opération elle sera simple, mais comme le dit aussi Elisabeth, c'est d'abord un travail collectif. Là on ne joue pas perso, hein. On mutualise nos moyens. Ce qu'on va faire, c'est concrètement acheter localement des produits alimentaires. Pourquoi localement ? Parce qu'on fait preuve de solidarité, notamment envers les entreprises qui transforment et qui ont besoin de redémarrer leur machine économique. Donc localement, ça sera du riz, de la farine, des pâtes alimentaires et des conserves. Ce que je ne pourrais pas trouver localement, je vais le commander en Australie. Pourquoi l'Australie ? Parce que c'est uniquement à 2 jours de mer, comparé à un transport maritime provenance Le Havre ou Marseille, où là on vise 30 à 45 jours de mer. En Australie, ça sera des produits que je ne peux pas trouver localement, comme par exemple le lait infantile, l'huile ou le paquet de sao, parce que le paquet de sao reste quelque chose d'important. J'attends de la part de la DAE, donc la Direction des Affaires Économiques, parce que je les ai sollicités à ce niveau-là, la connaissance de ce qu'on appelle le panier ménagère. Et je veux aussi savoir quels sont, à leur sens, les produits de première nécessité. À partir de ces informations, nous, on sera en capacité de faire, de proposer des paniers alimentaires. Ce qui est certain, c'est que tout ce que nous allons acheter, tant localement qu'au niveau international, moi, je n'ai pas l'expertise pour déterminer qui est éligible. Oui. Parce que localement, le fait de distribuer l'alimentaire pour nous, Croix-Rouge, c'est une première. Ça se fait en métropole. Hein. En métropole, c'est 30 millions de repas par an. Pour nous, c'est une première. Donc, je n'ai pas la capacité de déterminer qui est éligible. Dès lors que l'on fait la distribution alimentaire, il y a 2 critères que l'on a respectés. La qualité, parce qu'on parle de produits alimentaires, qualité du produit et éligibilité. Donc, pour ce qui nous concerne, et je pense que c'est pareil pour le Secours catholique, la société Saint-Vincent-de-Paul, notre interlocuteur, ce seront les CCRS. donc les centres communaux d'action sociale, qui pourront nous dire quelles sont effectivement les populations qui sont éligibles et qui sont en grande précarité.
Jean-Yves Le Menon.
Oui, très vite. Mais, nous avons aussi le moyen de produire des bons alimentaires. On a des conventions avec des enseignes de la place où les gens vont pouvoir, là aussi ça leur redonne un petit peu de liberté de choix, choisir ce qu'ils veulent. Et donc ils vont dans les enseignes les moins, où les produits sont les moins coûteux, bon, je ne vais pas faire de publicité ici, ça leur permet aussi de retrouver un peu de dignité et de faire des... Voilà, qui peuvent composer des menus qui leur plaisent, etc., etc. Donc c'est un autre moyen quand on n'est pas en capacité de manipuler, parce que préparer des colis alimentaires, c'est un vrai boulot physique. Ouais.
Physique. Il faut beaucoup de bénévoles.
Il faut beaucoup de bénévoles, beaucoup de méthodes, beaucoup d'espace. Et donc, dans l'urgence, les bons alimentaires, voilà, ou les chèques restaurants, ce sont des moyens aussi d'aider les populations de façon rapide et assez efficace.
– Carlène Terria, dans votre quartier de Rivière-Salée, c'est ce que vous constatez, l'inquiétude principale, c'est quoi? C'est ça, c'est l'alimentaire, justement,
oui,
c'est comment
c'est,
on fait ?–
C'est ça, le premier point, c'est surtout l'alimentaire. Il y a aussi ces problèmes de transport aussi qui perdurent, parce qu'il y a pas mal aussi de ménages qui n'ont pas de transport, donc c'est très compliqué, mais voilà, nos missions au sein de l'association, c'est premièrement l'alimentaire, mais aussi le côté moral, le soutien moral que les gens aussi ont besoin pour continuer à avoir ce lien avec la population. Donc voilà, il y a tous ces problèmes-là qui se rajoutent, le transport, le collège aussi, la fermeture du collège aussi qui nous inquiète, parce que nous, on est vraiment acteurs intégrés à notre quartier Rivière-Salée. Et c'est vraiment l'éducation, c'est vraiment important, c'est un thème, voilà, ça c'est vraiment... L'arrêt social et même la vie, la mort d'un quartier, est-ce que nous, on ne veut pas, en fait. Donc, on veut vraiment toujours garder ce lien avec les habitants de Rivière-Salée. Et ça nous tient à cœur, tous ces sujets-là qu'il faut aborder et qu'il faut résoudre. C'est très compliqué en ce moment, voilà. On a eu plusieurs réunions avec ses partenaires concernant le transport en commun, voilà, qui perdure. L'alimentation... On fait pas mal d'activités comme les opérations CADI qui sont vraiment vitales au sein d'une association. On remercie aussi tous les donateurs particuliers et institutions qui ont contribué à nous aider au tout début, parce que c'est vrai que nous sommes une nouvelle association. Donc on commence, on rentre dans ce jeu-là. Mais voilà, on a fait des cagnottes litchi, une cagnotte litchi, voilà, on s'est mis voilà, à notre terme d'évolution en ce moment, voilà, les réseaux sociaux. Donc ça marche, une bonne communication aussi qui est très importante aussi, parce qu'on on reste transparent dans tout ce qu'on fait. Et on a mis en place aussi des activités telles que le marché de Rivière-Salée, le vide-grenier, première édition, ce dimanche qui est passé, qui est vraiment une réussite, parce que ce genre d'activité-là resserre les liens que les habitants ont besoin de cette vie sociale. C'est important, le côté alimentaire, oui, mais il y a aussi ce lien social qu'il faut aussi continuer et perdurer dans nos missions.
Donc, voilà. C'est vrai qu'on voit plein d'initiatives du même type en ce moment, et c'est souvent des initiatives de quartier d'ailleurs, ou de village, des gens qui effectivement essayent de s'organiser pour faire des petits vide-greniers, pour faire des repas partagés, pour faire des choses comme ça, pour faire des petites animations, histoire d'essayer de retrouver justement ce petit lien social dont parlait Betty tout à l'heure.
Les gens ont besoin de se rencontrer, de parler entre eux, de refaire le lien. Et il ne faut surtout pas faire un amalgame avec ce qui s'est passé. Ça, c'est très important. Donc, nous, on fait des actions, par exemple, mais on fait des actions où les gens peuvent se rencontrer. Et on voit qu'ils sont heureux de se rencontrer aussi. Et de faire la petite affaire, entre guillemets, bien évidemment. Je voudrais faire un appel aussi à la solidarité, bien sûr, et aux dons qui sont très importants pour nos associations. Parce que même si nous sommes des associations plus anciennes que Madame, nos fonds ne sont pas extensibles. Oui. Et là, on va arriver à la fin. On fait beaucoup de dons sur nos fonds propres, bien sûr. Mais là, je pense que la solidarité, je pense à la grande distribution, aux magasins qui sont encore debout, etc. On sait qu'on a perdu 20 000 mètres carrés de magasins. Hein, donc, c'est énorme. C'est pour ça que l'alimentaire va devenir vraiment un objectif primordial. Mais il faut se dire qu'on est éligible, nous, au mécénat. Donc on peut faire des...
Des dons déductibles des impôts.
Voilà, exactement. Des bons fiscaux. Donc ça, c'est important. Il ne faut pas qu'ils nous oublient. Et on peut redistribuer à ceux qui ont besoin.
Je voudrais qu'on aborde un thème dans cette émission, c'est comment vous voyez les choses évoluer. On est tous d'accord que l'une des préoccupations que vous avez tous évoquées autour de cette table, c'est l'alimentaire. Betty Levanquet, est-ce qu'on est à la veille d'une crise alimentaire en Nouvelle-Calédonie ou est-ce qu'on est déjà dedans d'ailleurs ?
Alors non, on est dans une crise grave, mais je pense qu'on n'a pas encore touché le fond. J'anticipe, moi, un tsunami social et économique. Et je pense que d'ici deux, trois mois max, ça va être très compliqué. Et pourquoi ? Parce qu'il n'y aura vraiment plus d'argent, plus le chômage, plus le... on a annoncé 25 000 chômeurs. Je veux dire, là, franchement, si on ne se... Enfin, moi, je me suis préparée, j'ai essayé en tout cas. Donc, en ce qui me concerne, j'ai fait appel à la Fédération des banques alimentaires qui a répondu et je les remercie. Et on est soutenu, effectivement, on a des dons qui arrivent et qui vont nous permettre de tenir, en tout cas, jusqu'à certainement la fin de l'année, mais après, on ne sait pas. Tahiti a été extrêmement généreuse. Je remercie la famille Malmezac qui a organisé cette collecte au pied levé. Ils nous ont envoyé 10 tonnes de vivres, 10 tonnes d'eau en très peu de temps. Ça s'est déclaré en juin. Et on a eu ça et on a pu distribuer. Donc la solidarité de Tahiti, je tiens à la saluer. Et, en tous les cas, il va falloir se réinventer rapidement. C'est-à-dire, effectivement, comme a dit Jean-Christophe Niotou il n'y a pas longtemps, il va falloir retourner au champ, produire le maximum. Et puis aussi, ce qu'il va falloir aussi qu'on fasse, moi, ce que j'essaye de faire depuis 6 ans, c'est éviter la cistana. Parce que là, la cistana, ça ne va pas être possible non plus. Et je pense qu'on va donner ses biens, mais donner en ayant le sens du partage et l'énergie du don, c'est important. Et je pense que la solidarité, on appelle à la solidarité tout le temps. Moi, ça fait 6 ans que je fais ça. Je pense qu'il est aussi important de dire « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Voilà.
Alors, c'est une chose qu'on a constaté aussi dans les quartiers, c'est cette volonté justement de prendre des initiatives. On en parlait un petit peu avant cette émission. Et ça fait partie des belles choses, des éléments positifs qu'il faudra sans doute un jour retenir de cette crise insurrectionnelle. C'est qu'on a vu dans les quartiers, un peu partout, des initiatives individuelles, des gens qui ne se parlaient pas se rencontrer et puis faire des choses ensemble. Vous avez ce genre de témoignage, évidemment, Carlène Terrien.
Oui, c'est ça. Au tout début du collectif, la première chose qu'on a fait, c'est avec Francis Malouya, qui est le président de l'association, il a invité tout simplement ses voisins dans toute sa ruelle pour un café solidaire. Et donc, du coup, voilà, nous, on est vraiment aussi à l'initiative de cette tendance-là dans la zone des rivières salées, le café solidaire que nous renouvelons tous les mercredis après-midi au stade de rivières salées, Bernard Ikewe. Donc voilà, juste autour d'un café, le fait de sortir, le fait de se revoir, le fait de parler, voilà. Donc c'est ça qui nous a boosté à continuer dans cette lancée-là. Donc voilà, on garde ces activités-là qui nous mettent toujours en lien avec les habitants. Et nous, on cherche vraiment... C'est vrai que nous tous, on a vécu les exactions de mai 2024, mais on veut que maintenant, on puisse penser à la reconstruction. Et dans la reconstruction, nous voulons que les habitants de Rivières-Salées soient des acteurs et plus des spectateurs.
Oui, c'est important.
C'est plus important et on reste toujours positif.
J'aimerais, moi, Gilles, s'il vous plaît, je voudrais profiter de cette antenne pour remercier les proviseurs des collèges qui nous accueillent dans leur cuisine pour qu'on puisse aussi continuer à faire nos repas solidaires. Je remercie le collège, le proviseur du collège Mariotti. Bientôt, nous allons aller au lycée du Kikewe, qu'on connaît bien parce qu'on y est déjà allé 2 fois. Et après, on ira à Païta, au collège Andémia. Donc je tiens à dire merci à tous ces proviseurs et chefs de ces établissements qui nous aident, parce que nous avons aussi subi le saccage et le pillage de notre café solidaire à la vallée du Tir, malheureusement. On a mis 3 ans à l'ouvrir, on a été heureux 1 an et ils nous l'ont saccagé, pillé. Donc voilà, mais ce que je voulais dire, c'est qu'on n'a pas baissé les bras, et qu'on a été justement à Rivière-Salée avec grand plaisir.
Oui. Hein,
on est allé au marché plaisir solidaire. Partagé. C'était très sympa d'y aller parce que justement, on voulait contribuer à cet effort du lien social à conserver à tout prix. Mmh. Donc on va le faire dans toutes les communes et on va même essayer de le faire dans le Nord dès que possible.
Alors tout ça, oui, Jean-Yves Le Ménon.
Oui, ça me fait penser à mon... Je ressors ma casquette de chef d'établissement. Je voudrais rappeler pour les auditeurs que la cantine, c'est quand même quelque chose de très efficace, que les situations sociales des parents, des élèves ayant pu changer à cause de la crise, ils sont sans doute éligibles à une aide sociale qui prend en charge la cantine. Donc la cantine, c'est quand même un bon repas 5 fois par semaine. Ça va être jusqu'aux vacances. Il y a des assistantes sociales dans les collèges. Ce n'est pas compliqué. Il y a des fonds sociaux qui existent dans les collèges qui peuvent prendre en charge donc, cette...
Il faut franchir le pas, il faut oser le faire.
Il faut oser le faire, mais justement, dans le contexte actuel, il faut rassurer tout le monde. Il n'y a pas de honte à aller demander cette aide. Et là, on est sûr au moins que les enfants auront un bon repas par jour, le repas du midi, pendant la période scolaire. Se posera le problème pendant la période de vacances, ouais, qui va arriver ensuite. Voilà. Donc, mais au moins, inviter les parents, vos auditeurs qui sont concernés, franchir le pas, aller voir l'assistante sociale du collège. Et après, c'est une décision qui est très rapide, très très rapide.
Alors tout cela ne serait évidemment pas possible, hein, toutes vos actions que vous menez toutes et tous sur le terrain, sans la volonté et l'opiniâtreté des bénévoles qui vous entourent. Je voudrais qu'on en dise un mot de ça, parce qu'ils sont, évidemment très volontaires. Vous les sentez motivés, peut-être même plus motivés que jamais, les uns les autres.
Alors, on a quand même...
Elisabeth Gault.
En ce qui me concerne, et je pense qu'il y a beaucoup d'associations avec qui j'ai parlé qui sont dans le même cas, on a quand même perdu des bénévoles. Mmh. Hein, il faut le savoir. On a perdu des bénévoles. Ben, y en a qui ont complètement quitté le territoire déjà. Donc voilà, c'est toute une frange de bénévoles qu'on n'a plus. Il y a les bénévoles qui venaient en quart, parce que les bénévoles, ce n'est pas forcément des gens de Nouméa Sud ou des gens... voilà. C'est aussi des gens, des fois, qui sont démunis et qui donnent de leur temps, qui sont vraiment dans la grande solidarité. Et ces gens-là, je veux les saluer, mais ces gens-là, ben, ils n'ont plus de moyens de transport. Donc pour venir chez nous ou ailleurs, c'est difficile. Donc on va en chercher quelques-uns. On est en train d'essayer de monter une petite navette, justement, pour les récupérer. Mais bon, ils sont un peu à droite, à gauche, ce n'est pas évident. Et puis, il y a une troisième catégorie de personnes, il faut le dire, il ne faut pas se cacher, qui ne veulent plus servir. Mmh. Voilà, parce qu'ils font peut-être amalgame, mais ils ne veulent plus servir. Donc, c'est vrai qu'on a perdu des bénévoles. Alors maintenant, il va falloir effectivement travailler sur remotiver, je dirais, remotiver les personnes. Ça commence à revenir. Il y en a un petit peu des nouveaux qui veulent donner de leur temps, etc. Mais il faut se reconstruire, il faut se réinventer, il faut faire autrement, oui.
C'est le cas pour vous aussi, Jean-Yves Le Ménon ?
Oui, c'est pareil. Oui, c'est le même, je fais le même constat. Alors, on a des fidèles. Dans mon courrier, je disais que malgré tout, il y en a de moins en moins de bénévoles et ils sont de plus en plus âgés.
Ouais.
C'est-à-dire on a des fidèles qui sont là depuis des années et des années, mais maintenant ce sont des grands-parents, eux, hein, voilà. Et donc, il ne faut pas oublier que l'aide alimentaire, c'est un travail physique. Il faut trimballer des sacs de riz, des balles de riz, de denrées qui sont pesantes. Et donc, on a besoin un peu de jeunesse, on a besoin d'un petit peu de...
de bras.
Et d'hommes.
Hein ?
Et d'hommes.
Et d'hommes. Oui, c'est très féminin aussi.
Oui, les hommes s'investissent moins dans le bénévolat.
Du côté de la Croix-Rouge, ça se passe plutôt bien ?
En fait, on revient sur ce qu'on disait au début de l'émission, c'est le maintien du lien. Donc, les bénévoles permettent de maintenir ce lien. Pour la Croix-Rouge, je n'ai pas eu de grosses défections parce qu'on est rentré tout de suite en résilience. Et dès qu'on a pu reprendre nos activités, on l'a fait sur le terrain, même dans des conditions parfois extrêmement compliquées, voire parfois dangereuses. Pour ce qui nous concerne, mais ce n'est pas uniquement pour la Croix-Rouge, c'est que nous, ce que l'on privilégie, c'est d'abord la sécurité de nos bénévoles, de nos volontaires. Dès lors que la sécurité n'est pas assurée, la mission est annulée. Ça, c'est un impératif. Et sur le sujet, on est totalement intransigeant. Après, effectivement, c'est l'occasion de faire un appel à de nouveaux bénévoles, ben, notamment pour ce qui nous attend en termes d'opérations, de préparation, de ce que l'on peut appeler les pagnes alimentaires. Là, il nous faut des petites mains. Pour ce qui nous concerne, celles et ceux qui accepteraient de rejoindre la Croix-Rouge pour la préparation des pagnes alimentaires, il faut savoir qu'ils ont obligation de suivre un stage en présentiel de 4 heures. Parce que là, on parle de sécurité alimentaire. Ça, c'est obligatoire dans la structure Croix-Rouge. Mais après, dès lors que ce stage est passé, que cette formation est dispensée et passée, oui, bien sûr, on va poursuivre la mission. Ouais, non, c'est compliqué, mais depuis le début, on est résilient. Et c'est pas uniquement nous, hein, c'est l'ensemble des habitants du Caillou. Hein. Mmh. On fait preuve d'une grande résilience.
Tout à fait.
Personnellement, moi, je crois en l'avenir. On a eu un gros coup d'ouest. Il faut bien mesurer quelles étaient les raisons de ce coup d'ouest. Et maintenant, on va de l'avant parce que c'est ce qui nous motive. Nous, associations, y compris Solidarité Rivière Salée, on va de l'avant. Et la Banque alimentaire, c'est notre mission.
Et tout le monde va de l'avant. On a
pas bien d'autre option possible.
Voilà, on a bien compris. On va finir cette émission sur ces belles paroles. Merci d'avoir été avec nous pour ce magazine citoyen.